Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Le soulagement pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, épargnés cette nuit par l'ouragan José. L'angoisse pour les Américains de Floride qui attendent l'arrivée d'Irma. Une arrivée prévue à la mi-journée, heure française. Soulagement à Saint-Martin donc, mais inquiétude devant le manque de vivres, d'eau, mais aussi l'insécurité liée au pillage. Des renforts de gendarmerie promis par le gouvernement sont attendus sur place. Après les destructions, on parle maintenant de reconstruction dans les Antilles françaises. Un dossier pas simple à Saint-Martin, gagné par une urbanisation sauvage. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation anti-vaccin pour les jeunes enfants hier à Paris et le coup de cœur de Jacqueline Pétrose pour le film de Karine Tardieu, Au témoin d'un doute. Enfin, la victoire de Sloane Stephens chez les femmes à l'US Open de tennis et le camouflet des Bleus éliminés de l'Euro de basket. Ce seront quelques-uns des titres abordés par Jean-Pierre Blimaud dans le Journal des Sports.
France Inter.
Plus de peur que de mal donc pour le passage de José, ce deuxième ouragan tant redouté qui est donc passé cette nuit au large de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nous allons y revenir dans un instant. Mais tout de suite, direction la Floride où là, on se prépare pour l'arrivée de l'ouragan Irma, celui-là même qui a dévasté nos Antilles françaises. La Floride où nous retrouvons notre envoyé spécial Grégory Phillips. Grégory, Irma n'est pas encore là mais les premiers effets se font déjà ressentir.
Oui, Irma n'a pas encore touché la Floride, que déjà l'archipel des Keys est plongé dans le noir, plus d'électricité. Les autorités prévoient déjà que dans tout l'État, ce sont plusieurs millions de foyers qui seront privés de courant dans les prochaines heures. Les premiers vents enregistrés dans le sud de la Floride atteignaient tout à l'heure les 120 km/h. Cet après-midi, on devrait être à 200. Les services météo mettent aussi en garde contre un fort risque de tornade et les dernières projections semblent montrer que après les Keys, c'est bien la côte ouest de la Floride qui risque d'être la plus durement touchée. Ici à Miami, la ville a été placée sous couvre-feu. La pluie ne cesse de tomber. On voit les premiers éclairs dans une nuit particulièrement noire. Les habitants qui n'ont pas quitté la ville restent cloîtrés chez eux ou dans les abris. Les 390 shelters mis en place par le gouvernement de Floride dans tout l'État. Sur Miami Beach, enfin, les premiers palmiers se sont couchés et des lignes électriques sont à terre. Mais tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce qui attend la Floride dans les prochaines heures.
Grégory Phillips depuis Miami. Retour maintenant à Saint-Martin. Martin durement touché par l'ouragan Irma il y a 5 jours de cela, mais finalement épargné cette nuit par le passage de José qui restait beaucoup plus loin que prévu. Épargné tout comme Saint-Barthélemy. C'est donc le soulagement sur l'île, comme a pu le constater l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Mathieu Mondoloni.
Les habitants s'étaient préparés toute la journée avec angoisse à l'arrivée de ce deuxième ouragan. L'île avait été placée en vigilance violette à partir de 13h, mais à 18h et après un peu de pluie...
Ne penche pas sur la rambarde à côté de moi, elle est pas solide. Hein.
Aucun signe de l'ouragan José.
C'est un gros soulagement.
Les habitants comme Rodolphe peuvent enfin respirer, relâcher les nerfs et penser à l'après.
Il va y avoir des pleurs, il va y avoir des gens qui vont dormir 12 heures. Voilà, on va tous réagir de manière différente. Mais oui, il va y avoir un contre-coup. On pouvait vraiment imaginer la suite plus concrètement qu'après le passage de José.
L'après, pour beaucoup, c'est reconstruire. Pour Véronique, c'est partir.
Ça fait 28 ans que je suis là. J'ai subi Louis, qui était à un niveau inférieur. Mais là, c'est trop là. Entre le cyclone et tous les pillages, c'est ça aussi qui pousse à partir aussi.
Elle tient la main de son fils Dorian, 14 ans.
Dorian, lui, il pleure souvent. Il a deux doigts de craquer, pour ça qu'il veut partir.
Je veux repartir en métropole parce que là, je trouve qu'il n'y a plus rien à faire à Saint-Martin.
Irma et José sont loin de Saint-Martin, mais l'île et ses habitants savent désormais qu'il faudra beaucoup de temps pour oublier leur passage.
Mathieu Mondoloni à Saint-Martin avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. Alors vous l'avez entendu, le soulagement donc à Saint-Martin, soulagement tout à fait relatif compte tenu des destructions causées par Irma, mais aussi les pillages. À ce propos, une rumeur semble avoir couru sur l'île, rumeur selon laquelle une partie de ces pillards aurait été constituée de détenus évadés de la prison située dans la partie néerlandaise de l'île. Rumeur démentie par le général Jean-Marc Descoux, le patron de la gendarmerie dans la région. Rumeur infirmée également par le Premier ministre Édouard Philippe qui a par ailleurs annoncé l'envoi de 240 gendarmes supplémentaires sur l'île de Saint-Martin. Une réponse en quelque sorte à Marine Le Pen qui lors de sa rentrée politique à Brachet hier en Haute-Marne a mis en cause l'exécutif dénonçant des moyens de secours et de maintien de l'ordre insuffisants.
Et maintenant qu'Irma et José sont passés, eh bien les habitants des Antilles vont pouvoir commencer à penser à la reconstruction.
Oui, une reconstruction qui ne va pas être évidente, surtout sur l'île de Saint-Martin. Pour le délégué outre-mer au Conservatoire du Littoral, Alain Brandeau, le plan d'urbanisme de Saint-Martin remonte à 1990. Or, depuis, la population a été multipliée par 5, entraînant une urbanisation sauvage. D'où une reconstruction plutôt délicate. Alain Brandeau, au micro de Marion Aquilin.
Il y a eu beaucoup de constructions avec peu de maîtrise de l'urbanisme sur Saint-Martin. Beaucoup dans des zones à risque.
des constructions qui sont trop sur les littorales face à l'arrivée de la houle de 10 mètres. Rien ne peut protéger ça, donc il ne faut pas se mettre là. Les anciens ne s'y étaient pas mis, il y avait bien de bonnes raisons. Aujourd'hui, on voit que ces zones-là ont été totalement rasées. Beaucoup des dégâts ont certainement eu lieu dans des zones où il n'aurait peut-être pas fallu construire. Alors, c'est facile à dire aujourd'hui et ça peut avoir quelque chose d'un peu choquant, évidemment, quand les gens sont sous le choc. Mais je pense que quand on va engager la réflexion sur la reconstruction, il faudra effectivement avoir une vraie réflexion d'urbanisme qui a peut-être manqué il y a 30 ans parce que les choses sont allées très très vite, la population a augmenté très rapidement et qu'il était très difficile d'y répondre. Mais aujourd'hui, il va falloir peut-être remettre à plat la question de l'urbanisation. Où sont les zones et où faut-il reconstruire et comment ?
Et selon une première estimation de la Caisse centrale de réassurance, le coût des dommages causés par Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ce coût donc s'élèverait à 1,2 milliard d'euros.
Il est 8h06 sur France Inter. Hier, ce n'était pas la grosse affluence devant le ministère de la Santé à Paris, mais quelques centaines de personnes ont tenu à venir manifester contre les vaccins obligatoires.
À l'appel du mouvement EPVEL, l'ensemble pour une vaccination libre, ces manifestants sont venus faire part de leur opposition au projet du gouvernement de vouloir rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants de moins de 2 ans. Une mesure censée entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Dans le cortège, deux mamans de très jeunes enfants, Fanny et Aurélie, qu'a rencontré Véronique Julien.
Elle s'appelle Marley, elle a un petit peu plus d'un an et je ne veux pas la vacciner. Mais je l'allaite, donc je lui donne plein d'anticorps, plein de bonnes choses. Elle pète la forme.
Vous allez continuer ? Elle ne sera jamais vaccinée ?
J'espère que non. Comme tout le monde, je suis allée chez la pédiatre. La pédiatre m'a prescrit des vaccins et c'est là où je me suis renseignée. Ça m'a fait peur. Les adjuvants, l'aluminium, formaldéhyde, toutes ces choses. Donc on nous dit que sous les dessous de bras, l'aluminium, c'est très mauvais, mais injecter de l'aluminium à nos enfants, c'est pas mauvais. Cherchez l'erreur.
Petit dernier, il a quel âge ?
Il a 3 mois. Il n'est pas vacciné. Et il ne le sera pas, c'est hors de question. On est libre de notre choix, de la façon dont on s'occupe de nos enfants, mais aussi de leur santé et d'en prendre soin.
Vous n'avez pas peur des conséquences ?
Non. Je suis contre le fait qu'on nous impose et clairement, moi j'ai une méfiance par rapport à ce qui se passe par rapport au vaccin. Je ne vois pas pourquoi on nous ferait vacciner par rapport à certaines maladies alors que clairement aujourd'hui il y a une hygiène et ce sont des maladies qu'on soigne très bien aujourd'hui. Si l'immunité de l'enfant est bonne à la base, il n'y a pas de raison de le faire.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention du suicide. En France, on dénombre environ 11 000 suicides par an. Et dont quasiment le tiers concerne des personnes de plus de 65 ans. La maladie, mais aussi l'isolement, constituent les principales raisons de ce phénomène. Enfin, dans l'actualité de ce dimanche, ce dossier présenté par le JDD sur l'affaire Grégory, un dossier de 7 pages où, pour les investigateurs du journal du dimanche, la participation de Bernard Laroche et de sa belle-sœur Muriel Boll dans l'enlèvement du petit Grégory ne semble guère faire de doute. L'enlèvement, mais pas le meurtre qui pourrait être imputable à une deuxième équipe, pour reprendre les termes du JDD. Frédéric Premier ne manquera pas d'y revenir dans sa revue de presse à 8h30.
Du cinéma maintenant pour refermer votre journal, Serge, avec un film plein d'émotions, un film drôle et tendre à la fois.
Au témoin d'un doute, c'est le titre de ce film qui sortira mercredi sur les écrans avec Cécile de France, François Damiens, Guy Marchand et André Wilms, rien que cela. Un film basé sur une histoire vraie, un film dans lequel Erwan, inébranlable des mineurs bretons, perd pied en découvrant sur le tard que son père n'est pas son géniteur, Jacqueline Pétrose.
C'est un film touchant où chaque comédien est d'une justesse parfaite. Erwan est démineur, c'est un homme rigoureux, un peu revêche, veuf depuis longtemps. Aujourd'hui, sa fille attend un enfant de père inconnu et Erwan ne comprend pas pourquoi elle ne recherche pas cet homme. Pour lui, la filiation est essentielle. Alors, quand il apprend la vérité sur sa propre histoire, il engage une détective pour retrouver son père biologique. Entre-temps, Erwan rencontre Anna, une médecin célibataire directe et franche, dont évidemment il tombe amoureux. Lorsqu'il fait la connaissance de Joseph, son vrai père, vieux militant sympathique, la tendresse s'installe tout de suite. Mais catastrophe, Anna et sa fille, et donc sa demi-sœur, enfin peut-être.
Si vous êtes mon frère, on s'arrête là. On va se manger des moules frites avec papa, on finit la soirée devant un Scrabble en écoutant Léo Ferré ou Serge Lama si vous préférez. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est sur le point d'apprendre que l'homme qu'on aime n'est pas son frère, on anticipe un peu, c'est tout.
Karine Tardieu signe une comédie douce-amère sur les mensonges, les non-dits, l'absence, les liens du sang et les liens d'amour. Et elle aime brouiller les pistes. Elle filme avec délicatesse et bienveillance la vieillesse, avec émotion les petits riens des rencontres. On s'amuse de certaines situations, mais avant tout, Au témoin d'un doute est un film débordant d'amour, un beau film réconfortant.
Voilà, le tout accompagné pour ne rien gâcher par la flûte enchantée de Mozart, qui sert d'ailleurs de leitmotiv à ce film. C'est la fin de ce journal, et c'est à vous Éric Delvaux.